28 au 27 février, c'est les rendez-vous du cinéma québécois, présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série noire Jean-François Rivard et François Letourneau. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Eman & Flooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par Le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga party Nuit Blanche Série Noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca.
Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la 4e édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au lacuvée.ca.
Pour la première fois, des étudiants de l'UQAM s'associent et organisent le mois de l'histoire des Noirs. Du 25 au 28 février, venez célébrer ce mois du savoir et de la découverte. Au programme, impact de la femme noire en Occident et en Afrique. Samedi 27, à partir de 16h, la diffusion en exclusivité de la série documentaire Afro-Canadien. Et enfin, dimanche, un panel de parcours inspirant. Le mois de l'histoire des Noirs, du 25 au 28 février. Pour de plus amples informations, suivez notre page Facebook Migra Luventa.
Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour, chers auditeurs, vous écoutez choc.ca. Vous écoutez La Faute aux médias en direct avec Émilien Roscanou à l'animation. Donc, je vous présente tout d'abord mon équipe, Charles Lemieux, Alex Bachalani, Véronique Forêt, ainsi que Camilla Rodriguez-Ca à la technique. Et nous avons également Francis Huot aux médias sociaux. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de pain sur la planche. Nous avons le sujet principal de l'émission qui sera FBI et Apple. Ça fait couler beaucoup d'encre, donc Apple qui tient tête au FBI. Tout d'abord, je vais me diriger vers Charles Lemieux qui va nous résumer un peu la situation. Donc, tout d'abord, bienvenue à l'émission, Charles.
Bonjour, Émilien, merci.
Donc, pourrais-tu nous expliquer un peu de quoi il en retourne?
Oui, bien sûr. Alors, voilà, tout commence avec une fusillade massive à San Bernardino, en Californie, au début de décembre passé. Un couple marié, Saïd Farouk et Tashfin Malik, a ouvert le feu dans une fête de bureau où il était employé vers 11h le matin, tuant 14 personnes. Ils ont ensuite quitté la scène, laissant des explosifs derrière eux. 4 heures plus tard, les policiers les auraient abattus alors qu'ils étaient dans leur SUV. Le FBI a ensuite demandé à Apple sa collaboration dans l'enquête en déverrouillant le téléphone de Saïd Farouk, qui pourrait contenir des informations pouvant comprendre les motifs du crime. Par exemple, les lieux visités par Farouk et Malik entre la fusillade et le moment où ils ont été abattus par la police, environ 2 heures plus tard. Mais Apple a dit ne pas pouvoir collaborer plus qu'ils ne l'ont déjà fait. En effet, le FBI voudrait qu'Apple crée une espèce de clé universelle pour déverrouiller tous les téléphones, de Saïd Farouk en particulier, pour aider à faire progresser l'enquête. Plusieurs raisons sont évoquées par Tim Cook, le PDG d'Apple, pour expliquer son refus. Apple se défend de ne pas avoir accès à ce genre de logiciel. Leurs appareils ont été bâtis pour être sécuritaires et protégés contre toute tentative de vol de données. Et puisque les informations cruciales recherchées par le FBI seraient sur le téléphone, Apple n'aurait aucune façon d'y accéder.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière d'accéder à certaines données par le cloud d'Apple, par exemple, dans le nuage, comme des photos, des vidéos, des contacts, ce genre de choses?
Effectivement, l'appareil était connecté sur le cloud. Plusieurs informations auraient pu être récupérées là, mais Apple a en effet accès aux données qui sont sur le cloud, qui sont toutefois pas des informations à caractère très privé, qui sont stockées uniquement sur le téléphone, comme des numéros de compte de banque, des localisations et autres. Mais les policiers en charge de l'enquête auraient fait un faux pas le mot de passe du compte Apple lié à l'appareil aurait été changé. Ainsi, la liaison entre le téléphone et le cloud a été interrompue. Cette connexion ne peut être établie qu'avec le code de l'appareil que le FBI n'a pas. Ainsi, ces données sont maintenant inaccessibles. Tim Cook a d'ailleurs mentionné dans une interview qu'il aurait aimé recevoir un appel plus tôt du FBI pour demander de l'aide, mais ça n'a pas été fait et maintenant il ne peut plus rien faire.
Et si Tim Cook veut collaborer, pourquoi il ne le fait pas davantage? Pourquoi ne pas créer le logiciel?
Tim Cook pense que la création d'un pareil logiciel mettrait en danger la sécurité des millions d'usagers de ces appareils, mais que cela créerait aussi un précédent juridique dangereux. Pour l'instant, il s'agit bien sûr de décrypter un simple téléphone dans une possible affaire de terrorisme, mais dans le futur, ce logiciel pourrait tomber entre d'autres mains. Il ne s'agit pas là, selon lui, d'un simple débat vie privée contre sécurité nationale, il s'agit d'un débat sécurité publique contre sécurité nationale. Aussi, Tim Cook a comparé ce logiciel qui serait créé à une « master key », en guillemets. Or, dans ce cas, c'est pas une clé physique qu'on crée, mais un logiciel, et un logiciel peut être copié. On ne peut pas simplement se débarrasser d'un logiciel comme on peut le faire avec une clé. Et bien sûr, ouvrir la backdoor, l'expression que Tim Cook a utilisée, c'est ouvrir la backdoor de tous les téléphones d'Apple. Et pour Tim Cook, la meilleure manière de protéger ses clients n'est pas de mettre un plus gros cadenas sur la serrure de la porte, mais bien de ne jamais créer de porte. Ça créerait aussi d'autres problèmes comme la possibilité pour la FBI de demander d'avoir accès à d'autres téléphones, à leur position, à leur caméra. Ça ouvre vraiment la porte à un système de surveillance généralisé. Et évidemment, Apple se défend de vouloir protéger les données et les informations personnelles de tous ses clients, surtout ceux n'ayant rien commis de mal. Dans un communiqué, ils ont affirmé que le simple fait de créer un tel logiciel les placerait dans une position où ils seraient constamment attaqués par des hackers voulant obtenir ce logiciel, position qui serait vraiment insoutenable pour eux.
Bien, merci beaucoup, Charles, pour ce résumé des faits.
Ça fait plaisir.
Donc maintenant, on se dirige tout droit vers Alex qui va nous parler un peu plus des groupes d'acteurs qui supportent Apple et le FBI, respectivement. Quels sont-ils? Il va démystifier ça avec nous aujourd'hui.
Oui. En effet, premièrement, il y a les défenseurs d'Apple qui se retrouvent en majorité dans la Silicon Valley. Plusieurs entreprises de la Silicon Valley ont publié un message de soutien à Apple, plus précisément Mark Zuckerberg, qui est chef d'entreprise de Facebook. Il connaît très bien le débat au sujet de la vie privée. Facebook a souvent été mêlé avec ce conflit. Il supporte la cause d'Apple, stipulant que débloquer les appareils électroniques que les gens utilisent au quotidien et font littéralement partie de leur vie n'est pas la bonne démarche à suivre. En revanche, qu'il soit un peu rancunier ou non, l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, défend le point de vue du FBI ainsi que le CIA. Il affirme que ce conflit n'est pas différent de celui où la police demanderait à une banque des informations au sujet d'un criminel, par exemple. De plus, il dit souhaiter que l'opinion du public ne soit pas en faveur d'une idée où le gouvernement ne peut jamais avoir accès à de l'information privée.
Donc, dis-moi, Alex, justement, c'est quoi la position des citoyens américains face à cet enjeu-là?
C'est pas mal divisé en deux, mais penche plus vers un bord que de l'autre. En effet, selon un sondage du Pew Research Center, 51% des Américains soutiennent la cause du FBI contre 38% pour Apple.
Par contre, il y a certains citoyens qui pensent qu'il y aurait anguille sous roche.
En effet, il y a une théorie du complot. Personnellement, d'habitude, j'aime pas les théories du complot, sauf celles en lien avec les États-Unis et Game of Thrones. Selon cette théorie, le FBI aurait déjà réussi à déchiffrer l'iPhone en question, d'une façon ou d'une autre, ou n'aurait tout simplement pas besoin de le faire, car ils auraient déjà recueilli l'information sur l'ordinateur personnel de M. Farouk. Le FBI serait en train d'utiliser l'excuse du terrorisme pour forcer Apple à créer un programme pouvant accéder à leur cellulaire, afin de mieux surveiller la population américaine. Selon moi, je vois juste pas comment c'est possible que le FBI américain n'a pas réussi à craquer le NIP de 4 chiffres d'un simple iPhone.
Non, c'est sûr, ça soulève beaucoup de questions. Merci beaucoup, Alex, pour ton analyse. Donc, nous allons maintenant nous laisser en chanson avec Cold Coast Remix de The Posters.
summer. Scatterbrain, but that's just how creatures do.
That's not just a creature.
I take my bitch. Fuck her. Fuck with me, I'll bite you like a creature too.
Vous êtes de retour à la Faute aux médias pour cette deuxième partie d'émission. Toujours, on parle toujours du sujet principal qui est FBI et Apple. Donc maintenant, on va s'en aller avec Véronique. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la couverture médiatique du conflit entre le FBI et Apple, ce qui est un peu le but de notre émission. Donc c'est à toi la parole.
En effet, Émilie. En fait, je me suis questionnée cette semaine à savoir si les médias québécois en avaient beaucoup parlé. J'ai donc questionné les gens autour de moi. Je me suis rendu compte qu'ils connaissaient l'existence du problème, mais sans le connaître vraiment en profondeur. Pourtant, ce sujet-là a quand même eu une belle visibilité, selon moi. On en a parlé sur plusieurs plateformes, soit la télé, la radio, les journaux, mais sans qu'elle fasse nécessairement la une. Si on regarde les sujets d'actualité les plus importants au Québec, depuis la publication de la lettre ouverte de Tim Cook aux clients d'Apple, on se rend compte que le bras de fer entre Apple et FBI n'en fait pas partie. En fait, les sujets les plus populaires ont été la suppression de 7000 emplois chez Bombardier et l'affaire de Claude Jutras. Mais c'est pas parce que le sujet n'a pas été placé à la une des journaux qui n'est pas important, voire primordial. Comme on a pu le constater, avec les explications de Charles et d'Alexandre.
Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des raisons qui expliquent qu'on en ait si peu parlé au Québec?
En fait, ma première hypothèse, ça serait qu'étant donné que le conflit ne se passe pas chez nous, la nouvelle perd de son importance. En fait, pour figurer à l'agenda des médias, une nouvelle doit être en mesure d'attirer que ce soit des auditeurs, des téléspectateurs ou des lecteurs. Donc, plus une nouvelle a lieu loin de nous, moins on est susceptible d'en entendre parler. Je vous entends dire, voyons donc Véronique, ça se passe chez nos voisins du Sud, les États-Unis, c'est assez près de nous. En fait, oui, vous avez raison, mais le conflit entre Apple et le FBI est assez complexe et très technique. Il touche au domaine juridique. C'est un sujet excessivement compliqué à comprendre, ce qui fait en sorte que c'est pas le préféré de la population. Donc, les médias vont pas l'exploiter nécessairement autant qu'un autre sujet qui touche directement plus la population du Québec. Un autre facteur aussi qui fait en sorte qu'une nouvelle va être à l'ordre du jour, c'est son caractère insolite ou sensationnaliste. Ici, non seulement on parle d'un conflit juridique, mais faut pas oublier aussi que c'est relié au terrorisme. C'est un sujet qui suscite les passions puis auquel les gens y ont vraiment un intérêt. Je pense donc que les médias auraient pu en parler sous cet angle. Ils auraient pu mettre l'emphase sur la nécessité d'avoir de bons outils pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas juste que le FBI va avoir accès aux informations de toute la population. Ils veulent surtout avoir accès à celle des terroristes ou des potentiels terroristes dans le but de prévenir des potentiels attentats. Je pense donc que la nouvelle avait un bon potentiel médiatique, mais qu'elle s'est fait tasser de l'ordre du jour par l'affaire Jutras et par les pertes d'emplois chez Bombardier. Ces nouvelles-là rejoignaient beaucoup plus la population québécoise. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que c'est pas parce qu'un sujet n'est pas important qu'il ne se retrouve pas en premier plan de l'actualité. Les médias sont des entreprises, puis elles doivent être rentables. Ils doivent parler de sujets qui intéressent la population pour susciter de l'engouement puis justifier leur existence. Comme la publicité est leur principal revenu, ils se doivent d'avoir une grosse clientèle afin d'attirer les publicitaires.
Est-ce que les médias ont pu ne pas en parler parce que ce conflit-là n'affecte pas directement la population québécoise?
Bien, en surface, je pense que ça pourrait être une raison, mais quand on regarde le conflit plus en profondeur, je pense pas. En fait, le chiffrement des données, qui est le fait de protéger les données personnelles des clients, est essentiel à la vie privée des citoyens. Si on crée un précédent sur le territoire américain, ça veut dire que toutes les personnes se trouvant sur leur territoire pourraient être susceptibles de voir son iPhone confisqué et par la suite déchiffré. Bien sûr, on s'entend que le FBI ne va pas aller fouiller n'importe quel iPhone sans avoir un doute raisonnable. Dans cette histoire-là, ce qui me dérange le plus, c'est que si le FBI a accès à cette clé universelle-là, qu'est-ce qui nous dit pas que le SCIS, qui est l'équivalent canadien du FBI, voudra pas lui aussi y avoir accès? En fait, advenant le cas où le FBI gagnerait sa cause, peut-être qu'un jour le SCRS en ferait aussi la demande, puis là, leur problème deviendrait aussi notre problème.
Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut suivre le dossier de près. Okay. Merci beaucoup, Véronique. De retour à Choc, pour la troisième et dernière partie de cette émission, nous allons avoir un petit débat sur la question principale qui, je le rappelle, est Apple versus le FBI. Donc, est-ce que vous êtes en accord ou non avec la décision d'Apple de refuser de donner un accès universel aux données des iPhones? Tout d'abord, Charles, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors moi, je pense que ma chronique le montre un peu. Je suis vraiment en accord avec la position de Apple de protéger les données de ses clients à tout prix, surtout considérant le fait que ça peut créer un dangereux précédent concernant la vie privée et tout ça pour le FBI et tout ça.
D'accord. Véronique?
Ben moi, de mon côté aussi, je suis parfaitement en accord avec la décision d'Apple. En fait, je trouve que ça serait très dangereux s'il y aurait une clé universelle qui serait créée. Puis notre vie privée serait vraiment, vraiment mise à mal là, dans ce cas-là.
Alex, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Bien, pour les mêmes raisons évoquées par Charles et Véro, je suis aussi en accord avec Apple, sauf que je comprends le point de vue du FBI. Si, dans le fond, en pouvant accéder au cellulaire de présumés terroristes ou de terroristes tout court, ça peut aider à prévenir d'autres crimes du genre et d'autres phénomènes du genre, je peux peut-être comprendre que ils veulent mettre en place une loi spécifique. Pour exemple, tel type de situation, on a le droit d'accéder au cellulaire. Mais en gros, je suis un fan de la vie privée aussi, puis je suis plus d'accord avec Apple.
Oui, mais là, ce qu'Apple est en train d'arguer de son côté, c'est que si on crée ce système-là, qui est un système qui leur permet d'accéder à la backdoor, là, comme Charles nous l'avait expliqué,
exact.
Un système d'accès universel qui tomberait entre de mauvaises mains ou qui serait entre les mains du FBI, ben ça ouvre la porte à des abus. Qu'en penses-tu?
Oui, c'est ça. En fait, dans l'entrevue que Tim Cook a donnée, je pense que c'est à ABC, il avait fait une espèce de métaphore d'une maison. Puis il avait dit la meilleure manière de garder sa maison sécuritaire, c'est pas de mettre beaucoup de barrures sur les portes, c'est de pas avoir de porte. Puis il veut pas créer une porte pour justement... Oui, il essaie justement de protéger la maison le plus possible, la maison étant le téléphone. Mais l'important, ça serait de pas créer une porte pour justement...
Oui, c'est ça. Surtout que ces dernières années, les États-Unis sont pas reconnus pour leur propension à protéger la vie privée de ses citoyens. Véronique?
Bien, je reviendrai un peu sur ce que Alex a dit. Dans le fond, oui, s'ils mettaient une législation en place qui ferait que cette information, tu sais, qui pourrait utiliser cette clé universelle-là seulement à certains moments, ça serait légitime. Par contre, en ce moment, dans le cas qui nous concerne, ils veulent accéder à un iPhone qui savent pas si oui ou non il y a vraiment de l'information qui vont les aider pour leur enquête. Des deux côtés, ils disent, Apple le dit, le FBI le dit, on n'a aucune idée de ce que contient le iPhone. Est-ce que savoir que les deux terroristes sont allés sont passés par telle rue pour aller se cacher, puis est-ce que ça va vraiment faire progresser l'enquête ou ça va juste nous mener à aucune autre information pertinente?
Oui, c'est sûr. Et puis quand on réfléchit au fait que on aurait accès à toutes ces données-là, là, par exemple, on peut sous mandat de la cour demander à Apple de divulguer certaines informations qu'ils ont en leur possession. Ça pourrait peut-être être possible aussi de faire que ce programme-là soit disponible seulement sous mandat de la cour. Sauf qu'encore là, en créant le programme, ça peut créer des problèmes.
Oui, mais en fait, les informations que le FBI recherchait, ça serait la localisation du téléphone pendant le 4 heures que les terroristes auraient disparu. Puis ils voudraient savoir aussi les contacts et tout le kit. Mais les contacts, ça est des choses qui auraient pu être disponibles par le cloud, mais à cause que le FBI a fait une erreur, c'est pas disponible. Mais c'est surtout la localisation, parce qu'ils n'ont aucune idée où ces gens-là sont allés pendant le 4 heures qui ont disparu avant de se faire abattre par la police.
Ouais, je vais vous relancer là avec une petite question. Est-ce que ça revient pas à l'éternel dilemme de si vous avez rien à cacher, ben vous n'avez pas à avoir peur, dans le fond?
Oui, c'est vrai. Si j'ai rien à cacher, j'ai pas à avoir peur. Par contre, est-ce que je veux qu'ils fouillent dans mon iPhone? Non. Je veux pas qu'il y ait accès à mes informations, même si les informations les plus pertinentes dans mon sujet, c'est que je suis allée m'acheter un café à telle heure, telle journée. Je veux que ma vie privée soit protégée. C'est pas pour rien qu'elle est dans notre Constitution, elle est dans la Constitution américaine aussi, si je me trompe pas, si je ne m'abuse. Donc, moi, je pense que ça a primauté sur le fait qu'on pourrait peut-être trouver des informations utiles là, dans le cas qui nous concerne ici.
Oui,
Charles. Oui, puis moi, ce qui m'a vraiment marqué dans tout ça, c'est le point, c'est pas... Personnellement, je pense pas avoir rien à cacher, mais le fait, c'est que je sais que probablement la sécurité me surveille d'une quelconque manière. Si j'étais aux États-Unis, probablement que le FBI me surveillerait d'une certaine manière, que ce soit avec la NSA ou d'autres programmes comme ça. Mais c'est plus le fait que, vu que c'est un logiciel, n'importe quel hacker pourrait tenter d'attaquer Apple puis d'avoir accès à ce logiciel-là. Puis après ça, et où la sécurité, tout ce qui est dans ton téléphone pourrait être saisi par un hacker. Tes informations personnelles, tes numéros de compte de banque, tes numéros de carte de crédit, toutes les personnes avec qui tu parles, tous les messages que tu envoies, plein d'informations que tu veux pas nécessairement qui tombent entre de mauvaises mains.
Oui, c'est sûr qu'ils peuvent quand même avoir accès à certaines de ces informations-là par le cloud, mais c'est quand même quelque chose qui regroupe toutes sortes de comptes, puis on n'est pas nécessairement capable de tous les retracer, là, de tous les retracer. Est-ce que vous pensez que Apple a des chances de gagner? Est-ce que vous pensez qu'Apple va gagner?
Selon moi, c'est presque sûr qu'Apple va gagner, tout simplement à cause de la Constitution américaine. Comme Véronique l'a mentionné tantôt, les Américains y prennent leur Constitution vraiment à cœur. Puis quand c'est bien la vie privée, c'est vraiment sacré. Donc, dans ce cas-là, selon moi, c'est sûr qu'Apple va gagner.
Véronique, est-ce que tu penses qu'Apple va gagner?
Moi, honnêtement, je sais pas au terme de ça si c'est Apple ou le FBI qui va gagner. Je pense que ça se défend, qu'au nom de la sécurité nationale, on va avoir accès à ces informations. Autant que ça se défend qu'au nom de la sécurité publique, on ne veut pas qu'on ait accès à cette information-là. Mais j'ai vraiment aucune idée à ce point de vue-là.
Oui, puis on a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait une majorité de la population américaine qui était d'accord avec le fait qu'Apple refuse.
Oui, 51%.
51%, ce qui est quand même important, là. C'est rare qu'on ait un aussi grand consensus chez les Américains, chez nos voisins du Sud. Donc, si le FBI gagne, jusqu'où est-ce que vous pensez que la surveillance peut aller?
Elle peut aller très loin. En fait, si on regarde qu'est-ce qui se fait à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, on peut se rendre compte que la surveillance est beaucoup plus partout, dans toutes les sphères de notre vie, qu'on pense. Donc, cette clé-là, en fait, c'est comme l'étape avant la biométrie. Moi, c'est comme ça que je la vois. Dans le fond, si on a cette clé-là, bien, la prochaine étape, on va avoir des puces pour nos cellulaires, on va avoir des cartes d'identité avec nos informations, tu sais, ADN, une empreinte de la rétine, tous ces trucs-là. Fait que pour moi, c'est vraiment un scénario futuriste que je veux juste que ça reste d'infime puis que ça soit pas la réalité.
Oui, c'est ça. Puis quand on pense qu'il y a déjà des données biométriques qui sont déjà prélevées par nos appareils électroniques, là, je pense aux empreintes digitales, c'est d'autant plus préoccupant. Charles?
Oui, mais l'affaire avec la sécurité nationale, c'est que plus des choses sont faites par le gouvernement pour qu'il y ait plus de sécurité, c'est juste une pente glissante. On va pas enlever ces droits-là après. C'est une pente glissante. Ça va être de plus en plus de surveillance par le gouvernement. C'est dangereux.
Donc, c'est un dossier dont on n'a pas fini d'entendre parler. Je remercie encore une fois mes chroniqueurs d'avoir participé à ce débat. Donc, merci à Alex.
De rien.
Véronique.
Ça fait plaisir.
Et Charles.
C'est un plaisir.
Je remercie également Camila Rodriguez-Ca à la technique et je remercie également Francis Huot aux médias sociaux. Encore une fois, c'était Emilien Roscanou. Vous écoutiez La Faute aux médias. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission et je vous laisse pour finir en chanson avec Over It de Junior Boys.
C'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop